podcasts d'AFDS.tv, aux frontières des séries. Une émission de Sarah Sepulcre et Alexandre Marlier. Les dossiers d'AFDS.tv, Alexandre Marlier.
Mini-série fantastique américaine au script original et au casting irréprochable de Lost Room avait tout pour plaire. Réalisée en 2006 par Craig Baxley, à qui l'on doit aussi Dark Angel et Kingdom Hospital, la série a pourtant été interrompue au bout de 6 épisodes par Sci-Fi. The Lost Room, c'est l'histoire d'une pièce secrète, une chambre située dans un monde parallèle en quelque sorte. Des objets vont en émaner, des personnes vont en disparaître. Eux, ils apparaissent aujourd'hui, c'est Cindy Willem et Nathanael Picasse.
Bonjour.
Bonjour.
Mais quels sont les dessous de cette histoire? Comment apparaît-elle? Et enfin, quelles sont les raisons de cette fin soudaine au bout de quelques épisodes?
Eh bien, je propose pour commencer de parler du début, parce que bon, avant de parler de la fin, donc le début qui est le pilote. L'histoire commence avec le héros qui est Joe Miller, un inspecteur de police divorcé, ayant sa jeune fille à charge. Joe et son collègue Lou vont enquêter sur un double meurtre assez mystérieux puisque deux personnes ont été retrouvées brûlées alors que leurs vêtements sont intacts, donc c'est comme si elles avaient été brûlées de l'intérieur. Ils vont commencer à faire quelques recherches. Joe va tomber sur un jeune délinquant qu'il connaît un peu et au moment de mourir, ce délinquant lui remet une clé assez particulière. La chose qu'il lui dit juste avant de mourir est « cette clé ouvre toutes les portes ». Donc il a un peu du mal à comprendre, mais il va vite se rendre compte que cette clé donne en fait accès à la chambre 10 d'un vieux motel abandonné au Nouveau-Mexique, d'où The Lost Room, et que cette chambre permet d'ouvrir n'importe quelle porte munie d'une serrure n'importe où dans le monde. Ce qui est assez pratique, la téléportation donc.
Donc en fait, on tourne la clé dans n'importe quelle porte et on arrive dans la chambre d'hôtel, on en ressort avec la même clé et on arrive où on veut en fait.
Voilà, exactement. En détenant cette clé, Joe va devenir la cible de collectionneurs parce qu'il faut savoir, c'est qu'un événement important se serait déroulé dans cette fameuse chambre le 4 mai 1961 et que cet événement aurait donné des pouvoirs aux objets contenus dans la pièce. Donc ça peut vraiment être des objets très banals, ça peut être une paire de ciseaux, des lunettes, une lime à ongles, des objets de la vie courante.
Tout ce qui peut se trouver finalement dans la valise d'un voyageur de commerce.
Voilà, exactement. Et donc, tout va basculer le jour où la fille de Joe est enlevée par l'une de ces personnes, qui a pour seul intérêt, évidemment, de récupérer la fameuse clé. Le seul souci, c'est que, en essayant de retrouver sa fille va disparaître dans la chambre 10 perdue, dont la porte se referme devant lui. Et donc, une autre chose qu'il faut savoir, c'est que la chambre se réinitialise à chaque fois que la clé est utilisée pour ouvrir la porte. Donc, à chaque fois que l'on ouvre et que l'on ferme la porte, tout est restauré en l'état initial. Donc, si quelqu'un reste à l'intérieur lorsque le détenteur de la clé est à l'extérieur de la chambre, la personne disparaît et se retrouve en quelque sorte dans une chambre parallèle. Donc je ne sais pas si vous me suivez, c'est ce qui veut dire si le détenteur de la clé ouvre la porte, mais un ours en pluche par exemple, la referme, l'ours en pluche a disparu aussi.
Donc il y a une forme de paradoxe aussi quelque part, c'est qu'il y avait quelqu'un et que cette personne n'existe plus et on ne sait pas où elle est. Quoi.
Voilà, elle est quelque part, mais on ne sait pas où exactement, c'est dans une des nombreuses chambres 10 qui existent. C'est à ce moment que l'intrigue commence vraiment, vu que Joe va devoir conserver cette clé tant convoitée et découvrir ce qu'il se cache derrière cette chambre mystérieuse s'il veut pouvoir espérer retrouver sa fille.
Moi, j'avais une question par rapport à ce thème de la chambre d'hôtel maudite. C'est quand même un grand classique, j'ai l'impression, de la littérature ou du cinéma d'horreur ou fantastique, en tout cas aux États-Unis. Je pense notamment au film 1408 avec John Cusack, où il y avait aussi une chambre d'hôtel dans laquelle il devait passer une nuit et c'est une chambre qui était possédée par le diable, etc. Ou tout simplement même le fameux hôtel miteux, parce que si j'ai bien compris, ça se passe aussi dans un hôtel miteux au Mexique. On pense évidemment au grand classique comme Psychose. Est-ce que la série reprend les stéréotypes habituels du genre, de pièces un peu bizarres, où on sent qu'il y a quelque chose d'étrange qui s'y est passé?
Eh bien, oui et non, en fait, parce que on n'est pas vraiment face à une série d'horreur, d'épouvante, mais plutôt face à une série fantastique. Donc on est plus face à du Heroes ou Lost que Psychose ou la chambre 1408. La base de l'histoire, c'est vraiment un événement tragique qui s'est passé dans cette chambre de motel, la chambre numéro 10 qui n'existe plus dans le monde réel. Mais c'est vrai qu'à certains moments, certains éléments d'horreur vont apparaître. La chambre 9 du motel, celle qui est juste à côté et qui, elle, existe encore dans le monde réel. Dans cette chambre, il y a un fantôme. C'est une chambre hantée, donc. Mais malgré tout, cette chambre 9 On ne la voit que dans un seul épisode, c'est pas vraiment le principal de la série. Les rôles principaux, on va dire, de la série, ce sont les objets qui ont des pouvoirs particuliers et qui vont mener à la fille de Joe. Donc c'est plus une enquête, enfin pas vraiment une enquête, mais on est sur une quête, vraiment. Maintenant, c'est vrai que, comme je disais, il y a aussi des stéréotypes horreur, la chambre 9 qui est assez noire. Quand Joe rentre dans cette chambre, il y a tout à coup un bruit qui survient, la chambre commence à trembler, il y a quelque chose qui leur veut du mal. C'est à ce moment-là que le héros voit le fantôme et donc il va se demander qui est-ce, il va essayer de retrouver son identité dans le village, il va la voir sur une vieille photo dans un restaurant après avoir essayé de recueillir des infos auprès des villageois qui eux évidemment ne voulaient pas parler de ce motel parce qu'il était maudit. Donc malgré tout, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans les films d'horreur, en quelque sorte un stéréotype, oui. À côté de ça, le fantôme qu'on décrit dans cette chambre, malgré tout, c'est pas vraiment un fantôme, vu que c'est une personne qui est enfermée dans un monde parallèle.
À l'instar de la fille de Joe.
C'est ce qu'il pense, et c'est pour ça qu'il veut découvrir qui est cette personne, pour pouvoir retrouver aussi sa fille. Il pense qu'il pourra les ramener tous les deux.
Planquer ça! Qu'est-ce que c'est? Vous rigolez? Non. Je sais pas ce que c'est.
J'ai été ravi de vous parler.
Ça va, ça va. C'est un objet.
Oui.
Hein? Parmi d'autres.
Et d'où proviennent ces objets?
De la chambre du motel. Tous les objets proviennent de la chambre du motel. Vous y êtes allé, vous avez utilisé la clé, pas vrai? Me dites pas que vous ne savez pas de quoi je parle. Oh non, je rêve. C'est le comble, ça, ce mec-là à la clé. Il ne sait même pas ce que c'est.
Combien d'objets y a-t-il? D'accord.
Attendez. C'est bon. Il y en a des tas. Facile, une centaine. Personne ne sait vraiment.
Une centaine? Est-ce qu'ils ont tous...
Ils font des trucs bizarres. Parfois des trucs bien, parfois non. Je connaissais un gars qui avait un stylo. Vous savez ce qu'il faisait? Il fabriquait des pièces. Il le tapait sur la table et une pièce tombait. Voilà. Ce mec se faisait $500 par jour en tapant son stylo toute la journée. 6 mois comme ça. Et il est devenu dingue. Ah, il y a le parapluie qui fait croire aux gens qui vous connaissent. Ça peut être très pratique avec des timides. Le dernier qu'il a eu, il s'est barré à Seattle pour moins se faire remarquer. Mais il y a d'autres objets. Comme la clé, par exemple, qui s'avère très utile.
Et le ticket de bus, il est utile?
Pas autant que la clé. Sauf si vous voulez vous pointer à Gallup, New Mexico, en un éclair, ce qui n'est pas mon cas.
Pourquoi Gallup?
Pourquoi pas?
Qu'est-ce qui s'est passé dans ce motel? Wally?
Quelque chose de terrible. Écoutez, inspecteur Miller... Pensez-vous que quelque chose ne tourne pas rond dans l'univers?
Oui, c'est sûr.
Eh bien, vous avez raison. Des choses comme ça, ça ne devrait pas arriver. Mais ça s'est passé dans cette chambre pourtant. Bon, personne ne sait réellement ce qui s'est passé, mais tout le monde a une théorie. Certains pensent que Dieu y est mort et que tous ces objets sont des parties de sa dépouille. D'autres disent que c'est pas ça. Cela pense qu'une partie de l'univers s'est brisée sur Terre et que les lois de la physique se sont détraquées. D'autres personnes pensent que Dieu est vivant et qu'il nous soumet à un test. Et tous ces gens veulent collecter tous ces objets comme les pèlerins qui cherchaient des reliques au Moyen-Âge.
Et vous, qu'est-ce que vous en pensez?
Ce que j'en pense, quel intérêt? Ce qui est important, c'est le prix. Ça, c'est ce que personne saisit. Il y a toujours un prix à payer. Pour utiliser ces objets. Que vous le sachiez ou non, il y a toujours un prix.
Le thème de la chambre hantée, secrète, ça fait pas un peu cheap? Parce que bon, maintenant on est quand même à l'heure du horror porn. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est les fameux films style Saw, Hostel. Donc on a l'impression de regarder une boucherie pendant 2 heures et on voit des gens se faire démembrer et on a tous les détails bien gore du meurtre. Ou alors on est plutôt dans quelque chose, vous voyez, avec un peu cheap, classique de l'horreur.
Et c'est vrai qu'on pourrait le penser parce qu'ici on a une clé qui ouvre une porte secrète, un stylo qui tue, un peigne qui une fois passé sur le crâne arrête le temps.
Ou ça fait très cheap ça.
Voilà, c'est un peu bidon quoi. On a l'impression qu'on va prendre n'importe quoi et ça y est, on va pouvoir avoir des pouvoirs spéciaux. spéciaux. C'est vrai qu'on pourrait penser que c'est une série qui pourrait limite être tournée par des gamins de 15 ans dans leur grenier avec une caméra, donc vraiment un truc d'amateur. Mais au final, voilà, c'est quand même une série américaine et donc c'est un minimum bien fait. Il y a des effets spéciaux, ce genre de choses. Et puis, un autre grand point fort de la série, c'est les acteurs. Le héros principal, Joe Miller, qui est interprété par Peter Krause.
Qu'on avait vu dans Six Feet Under, hein, dans le rôle de Nathaniel. Est-ce qu'il arrive à faire oublier un petit peu ce rôle assez mythique? Parce que je crois que c'est la série qui a immédiatement suivi après la fin de Six Feet Under. Est-ce qu'il arrive à faire oublier ce rôle qui a quand même été très marquant?
Bien, personnellement, j'ai pas vraiment vu Six Feet Under, mais c'est vrai qu'il... Honte à moi.
Je propose qu'on... Mais virez-la, tout de suite. Qu'est-ce qu'elle fait ici?
Tu prends ta clé, tu vas ailleurs.
Je vais aller sur une île déserte, me dorer.
Il n'y a pas de porte sur une île déserte, tu ne pourras pas y entrer.
Ah oui, c'est vrai. Sur Lost, il doit y avoir une porte.
Ah, la porte de l'avion, ouais. Il faudra voir si elle s'ouvre avec une clé.
Malgré que je n'ai pas vu cette série, je trouve que le personnage est très crédible. Oui, je trouve que c'est un très bon acteur. Et à côté de ça, c'est vrai que, bon, il y a d'autres acteurs connus aussi dans la série, qui est par exemple Peter Jacobson, qui interprète le docteur Taube dans Dr. House. Dr. House que j'ai vu.
Ouais, bon, alors ça va.
Et donc ici, il interprète Wally, qui est un gars un peu étrange. En fait, la première fois qu'on le voit, il est justement patient dans un hôpital. Il a changé de veste. Il semble fuir les docteurs. Et il a une carte bien particulière, parce que c'est un ticket de bus qui peut téléporter les gens à un endroit précis au Nouveau-Mexique, qui est la route qui mène au motel.
Et donc, a priori, ce ticket de bus vient de cette chambre 10. Après,
voilà, d'office. Exactement. Et donc, c'est aussi Wally qui va lui dévoiler qu'il y a d'autres objets, qu'il y en a une centaine, et que tous ces objets ont des pouvoirs, et qu'il faut qu'il trouve l'objet premier pour retrouver sa fille. Un autre personnage qu'on a pu voir dans la série Urgence, Carole de Urgence, qui est Juliana Margulis. Dans la série, elle joue le rôle de Jennifer, qui appartient à la Légion, une association qui veut détruire tous les objets, qui va aider Joe dans sa quête, et qui devient aussi sa petite amie dans la série.
Pour revenir au rôle de Peter Krause, tu demandais tout à l'heure s'il réussissait à faire oublier son rôle de Nat. Je pense pas, en fait, qu'il est dans un registre très différent. Parce que il est, dans cette série, un père torturé qui recherche sa fille. J'ai l'impression qu'il joue un peu sur le même registre. Ce qui n'est pas dommageable, puisque c'est vraiment ce qu'on lui demande dans la série. Mais du coup, il est pas très différent de ce qu'il est dans Six Feet Under, effectivement.
Il est toujours en train de gérer son deuil, quelque part.
Voilà,
Six
c'est
Feet
ça.
Under, ouais.
Tout à fait.
Oui, parce que c'est vrai que c'est une série, j'ai trouvé aussi assez sombre. Les images sont dans les tons de gris. Très peu de soleil, je sais pas où ils sont.
Sauf quand ils sont en motel, là. C'est,
oui, c'est vrai.
Là, c'est des tons très, très jaunes, très, très ocre, très vifs.
Et d'ailleurs aussi, quand il ouvre la porte de la chambre 10, avec toute cette lumière qui sort de la chambre est un peu comme la porte du paradis, en quelque sorte. Et d'ailleurs aussi, on en parle dans la série, vu que la lutte pour la possession des objets va être menée par deux groupes, l'ordre de la réunification et la Légion. L'ordre de la réunification, lui, va avoir un discours un peu divin, que ces objets constituent Dieu en personne, qu'une fois réunis, ils leur permettront de communiquer directement avec le Créateur. Donc ici, voilà, on est dans un discours où on parle de Dieu. Maintenant, c'est vrai que, personnellement, en voyant la série et quand ils ont commencé à parler de Dieu, je me suis dit, mais, évidemment... il fallait qu'il fasse rentrer Dieu dans l'histoire, quoi. À côté de l'ordre, il y a la Légion, comme je le disais tout à l'heure, qui veut détruire les objets, car ils veulent éviter que quiconque puisse retenter l'expérience des collectionneurs qui a été faite en mai 1961 et qui a failli créer l'apocalypse, donc la fin du monde.
Il y a une chance que... une toute petite chance que vous puissiez faire sortir votre gosse de cette chambre.
Bon, dites-moi comment faire.
Ben, quelquefois, quand on commence à mettre les objets ensemble, il arrive des choses bizarres, des nouvelles choses, des nouvelles propriétés, totalement imprévisibles. Tenez, la montre, elle a l'air de rien, non ?
La montre ?
La montre bracelet, elle cuit les œufs. Rien d'autre que les œufs. On met un œuf au milieu, elle en fait un œuf dur. Je sais pas comment ils ont trouvé ça, mais ça marche. Enfin, bref. Personne ne s'intéressait spécialement à la montre. Jusqu'au jour où quelqu'un a découvert que si on mettait ensemble le couteau et la montre, ça donnait une sorte de... don de télépathie.
Donc, selon vous, si je trouve les bons objets et que je les utilise avec la clé...
J'en sais rien. Joe, il y a une chance sur 1 million.
Je la tente.
Quoi que vous fassiez, perdez pas la clé. Si vous la perdez, vous retrouverez jamais votre fille.
Si j'ai bien compris, donc la chambre possède des objets au pouvoir mystérieux, et donc chaque épisode, c'est l'occasion de découvrir un nouvel objet ou d'être en quête d'un nouvel objet finalement.
C'est vrai qu'on en apprend au fur et à mesure un peu plus sur les objets, et qu'un seul objet est important par épisode. Donc il y a la clé, puis le réveil, le peigne, la boîte à montre, l'œil de verre, et puis enfin l'occupant.
Ce sont eux qui donnent le titre à chaque épisode.
Et ce sont d'ailleurs les objets qui vont mener à la résolution de l'énigme, retrouver sa fille, donc c'est peut-être pour ça qu'ils ont tant d'importance. Maintenant, c'est vrai que d'autres objets vont apparaître au fur et à mesure, qui vont les aider à s'en sortir, comme le stylo, la lime à ongles. J'en ai déjà cité quelques-uns tout à l'heure. Je vais peut-être vous donner quelques pouvoirs de ces objets, ça peut être intéressant.
Fais-nous rêver, avec une lime à ongles, qu'est-ce qu'on peut faire?
Et un ticket de bus.
C'est ça. Un ticket de bus, on sait qu'on peut se téléporter. Donc
voilà. Toujours au même endroit.
Toujours
hein.
Au même endroit. Pff, pas très intéressant.
Intérêt à avoir une résidence secondaire dans le coin, sinon ça n'a que très peu d'intérêt.
Ou avoir la clé.
Oui, aussi.
Donc la lime à ongles, on en parlait, qui est capable de faire évanouir les gens. Bon. Voilà.
Ouais, super.
Le peigne qui permet d'arrêter le temps pendant quelques secondes.
Ah oui, donc dès que tu veux te recoiffer, clac, tu fais arrêter le temps.
Voilà, exactement.
Il a un effet secondaire, c'est-à-dire oui. Que quand le temps est arrêté, quand on a fini l'expérience, on vomit, tout est un peu décéléré et donc ça donne une impression de nausée et donc on est malade après.
Donc tu es bien peigné mais tu as la bouche qui pue parce que tu as vomi, c'est génial, d'accord. C'est hyper classe.
On a les lunettes qui empêchent la combustion, donc le feu s'éteint avec les lunettes. On a la montre bracelet qui fait cuire des œufs.
Ça fait grotesque, c'est décrit, c'est ignoble.
Mais ils le disent eux-mêmes, il y a certains objets qui ont des actions qui sont totalement inutiles et il y en a d'autres qui sont beaucoup plus utiles.
Voilà, mais la montre, si on la combine au couteau, elle peut donner le don de télépathie.
Et pas dit donc.
Puis il y a le ticket de bus, comme on a dit, il y a l'œil de verre qui peut réparer et détruire les chars.
Ce qui donne à un moment une scène assez dégoûtante où un gars s'enlève l'œil pour se mettre l'œil de verre, pour pouvoir l'utiliser.
Voilà.
C'est assez frais.
Et enfin, il y a la pièce de monnaie qui, lorsqu'on l'avale, peut rendre réel des souvenirs. Donc ça peut faire réapparaître des personnes mortes ou non mortes.
Il faut avaler la pièce.
Mais maintenant, c'est vrai qu'il y a aussi un côté fun de la série, justement, parce que les pouvoirs sont parfois un peu ridicules. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la chambre, les objets sont destructibles comparé dans le monde réel, enfin, en dehors de la chambre on ne sait pas les détruire. Ouais. Par exemple, si le méchant arrive dans la chambre avec Joe et veut le tuer, à un moment donné il veut le tuer avec son bic, mais il n'y arrive pas parce qu'il est dans la chambre. Donc là pour le moment c'est un peu ridicule. C'est comment sortir un réveil qui est dans un coffre blindé quand on est dans la chambre, il suffit de fermer et ouvrir la porte et donc à ce moment là on le retrouve facilement vu que la chambre se réinitialise et que le réveil est à sa place.
Pourquoi la série n'a pas fonctionné finalement? Parce que j'ai compris, il y a eu 6 épisodes et d'après ce que vous m'avez dit, c'est assez fun et c'est assez sympa à regarder. Qu'est-ce qui explique que ça n'a pas fonctionné?
Je comprends pas très bien non plus parce que on peut pas dire que ce soit une série classique vu que j'ai l'impression que les gens sont quand même assez friands ce genre d'intrigue un peu fantastique. L'idée de base aussi elle est bien vu que on donne des pouvoirs aux objets.
Mais il y avait pas de vampires parce qu'en ce moment il faut des vampires pour que ça fonctionne.
Ouais, il faut des morts vivants.
Mais c'était pré-vampire, on n'y était pas encore.
Ah oui.
Maintenant une des raisons, l'intrigue est bonne, mais je trouve qu'il y a pas assez de suspense en fin d'épisode. Il y a pas vraiment de cliffhanger et les personnages sont pas très approfondis. Ils auraient peut-être gagné à être un peu plus étoffés par le créateur. Moi, ce qui m'a dérangé aussi, c'est les méchants. Au départ, il y a quand même pas mal de méchants. Carl, donc celui avec son stylo qui tue les gens. Il y a le collectionneur qui est riche. Au départ, ils sont méchants et en 2 minutes, ils deviennent gentils un peu sans raison. C'est comme si Joe, en leur expliquant qu'il a perdu sa fille, avait réussi à les émouvoir et que du coup, ils passent de leur côté et que tout est oublié. Maintenant, c'est vrai que c'était un stratagème de leur part et on le verra. Un des méchants se dit gentil et puis redevient méchant. C'est quelque chose qui m'a un peu dérangé dans la série. Et puis, une autre chose aussi, c'est que tout va trop vite, que les énigmes sont trop vite résolues. De nouveau, c'est peut-être lié au fait qu'il y a que 6 épisodes qu'ils ont dû terminer. On change de lieu, de personnage, d'objet de manière supersonique et la résolution des énigmes semble parfois un peu surréaliste tellement ils comprennent rapidement. Par exemple, dans un des épisodes, ils mettent la boîte à montre, la lime à ongles, la clé, l'œil de verre et d'office, ça va ramener les morts et faire disparaître le monde réel. Enfin, ils comprennent un peu trop vite à mon goût.
Quand tu mélanges certains objets, voilà, il faut se dire maintenant si j'ai mélangé ma montre avec mon stylo et avec ma plume que je me mets dans le derrière, j'arrive à...
voilà.
À courir exactement. À 200 km. Ouh ! Est-ce que c'est une série qui, selon toi, aurait mérité quand même une seconde chance, qu'elle se continue en fait ?
Mais pour moi, oui, parce que c'est vrai qu'on se prend quand même au jeu et on a envie de découvrir d'en savoir un peu plus sur les objets, sur la chambre, comment cette chambre est devenue fantastique, les objets, comment sont-ils arrivés là, pourquoi. Pour cette raison, oui, même si c'est peut-être pas suffisamment piquant.
Tout en se disant que peut-être que si la série avait continué, ça aurait peut-être pu devenir assez rapidement très lourd si on avait chaque semaine l'objet de la semaine. C'était peut-être un peu répétitif. Donc moi, je me dis que c'était pas une mauvaise chose qu'elle se soit clôturée, mais... on a un petit goût de trop peu. On aurait peut-être aimé qu'elle aille au terme de 13 épisodes, par exemple, pour avoir une explication un peu plus complète.
Voilà, c'est vrai que d'un côté, on aurait aimé en savoir plus, et d'un autre, au moins ça tire pas en longueur, comme des séries comme Lost, où finalement, perdaient de leur intérêt.
Ou c'est les 4400.
Ou les 4400.
Parce que plusieurs points n'ont pas été éclaircis. D'abord, on n'a pas la signification de l'entièreté des objets, donc ça aurait été fun de pouvoir développer un peu tout ça. Et puis, l'objet principal qui est l'homme de la chambre, l'homme qui était dans la chambre a aussi été transformé en objet. On n'a pas la raison totale de pourquoi il était là et pourquoi il est devenu un objet. On reste un petit peu sur sa fin.
On reste sur sa fin, oui. Exactement. Le point négatif de cette série, c'est qu'il y a justement des mystères qui n'ont pas été explorés pleinement, que la fin, il y a encore beaucoup de questions sans réponse et qu'on aurait aimé en savoir plus. Maintenant, c'est vrai qu'à côté de ça, elle a découvert de nouveaux objets, on avait envie de connaître la suite et c'est un peu dommage de ne pas en savoir plus.
En tout cas, on espère que ça ne vous aura pas dégoûté de regarder cette série si vous avez envie de la découvrir et que Cindy vous aura donné l'envie justement d'aller chercher cette courte série de la chaîne Sci-Fi, qui est, je vous le rappelle, disponible en DVD si vous voulez la découvrir. On se retrouve en tout cas très bientôt pour un prochain dossier.
Retrouvez Aux frontières des séries sur le web www.afds.tv.